Je sais pas comment on va faire passer tous les sujets d'ici à 15 heures, mais tantôt, faut se parler de déconfinement. Il y a des annonces qui ont été faites hier en Ontario avec des assouplissements pour les restaurants, les bars. On parle de pleine capacité dans les restaurants. Ça devrait être annoncé la semaine prochaine en Ontario. Il va falloir réfléchir à ça au Québec aussi, là. Faut pas s'endormir. Passeport vaccinal. Combien de temps ça va durer? Moi, j'ai beau être en faveur de cette mesure-là qui nous permet de regagner une certaine liberté, une certaine qualité de vie. Il reste que ça peut pas être éternel. Et je trouve qu'il va falloir jaser un petit peu plus de déconfinement au Québec dans les prochains jours.
Écoute, juste te dire que mon petit doigt me dit...
Oui.
Qu'à quelque part, cet après-midi, il va avoir certaines bonnes nouvelles.
Des bonnes nouvelles?
Il n'y a pas de conférence de presse avec un grand déconfinement, c'est pas ça que je te parle, mais tu sais, il disait qu'il en ajouterait un peu plus ou qu'il en enlèverait, là, ça, selon comment on voit ça, qu'il enlèverait des contraintes. De ce que je comprends, si ça se confirme, à quelque part, d'ici la fin de l'après-midi, il va avoir certaines bonnes nouvelles qui vont être annoncées.
C'est stable dans les cas? C'est stable dans les hospitalisations, c'est stable aux soins intensifs. C'est une tendance assez lourde depuis plusieurs jours. Il faut parler un petit peu plus de déconfinement. On y reviendra d'ici à 15 heures. Mais là, il faut se parler du quatrième lien. Le fameux quatrième lien proposé hier par Jean-François Gosselin. Puis en passant, l'emploi du terme quatrième lien. Je suis tout à fait d'accord avec Steph Dupont. Je l'écoutais ce matin, puis il avait tout à fait raison. C'est pas un quatrième lien. C'est qu'on divise en deux celui qui est présenté comme le troisième. Puis juste un des titres dans les journaux de ce matin, le Gosselin veut que le gouvernement se penche sur une liaison routière à l'est en plus du tunnel. Pas tout à fait ça la réalité, là, c'est que le tunnel qui est sur la table présentement, il y a les deux, t'as et le transport en commun et le lien routier qui est prévu dans le même tunnel. Donc c'est pas tout à fait ça là, la proposition qui a été faite hier par Québec 21 et Jean-François Gosselin. Ce qui est dommage là-dedans, là, ce que je trouve dommage dans ça, c'est que hier, Jean-François Gosselin a parlé de ça. C'est un changement majeur de position. Mais il n'a pas amené de chiffres. Il n'a pas amené de concret. Il n'a pas amené de solide autour de ça. Il n'a pas amené de viande autour de l'os en parlant de ça parce que moi, je pense que le débat mérite de se faire. Le débat mérite de se faire. Est-ce que, en bout de ligne, le troisième lien, ça va être quoi, là? Est-ce qu'on se dirige vraiment vers un énorme tunnel avec une autoroute? Puis du transport en commun entre les deux centres-villes avec une sortie au centre de Québec. Regarde, moi, je suis pas contre. Mais j'ai des gros doutes sur la réalisation de ce projet-là. C'est pour ça que je dis que le débat de dire, OK, est-ce qu'on devrait peut-être commencer avec un lien de transport en commun entre les deux centres-villes? Moi, ça m'apparaît très attrayant en passant. Je suis pas le plus grand utilisateur du transport en commun. Puis je ne vais pas, ça arrive sud, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'attrayant. Tu sais, le transport en commun, des fois, on a de la misère à voir c'est quoi le gain. Là. C'est quoi le gain en temps, en rapidité, en efficacité? Là, quand tu me parles de ça, puis je sais que c'est la proposition de Jean Rousseau aussi, je me dis, ouais, ça m'apparaît intéressant, ça, de passer entre Lévis et Québec, en dessous du fleuve, en quelques minutes, t'es rendu au centre-ville, pas d'auto à stationner, pas rien. Moi, je vois quelque chose d'attrayant dans ça. Mais le problème de Jean-François Gosselin, premier problème, c'est qu'il y a quelques journalistes où, dès qu'il ouvre la bouche, il rabroue tout de suite, ils veulent même pas entendre ou écouter ce que lui a à dire. En partant, c'est sûr que c'est une mauvaise idée parce que c'est Jean-François Gosselin qui l'apprend. Il y a quelques journalistes comme ça à Québec présentement. Mais le problème majeur, c'est quand tu arrives avec une idée comme ça, faut que tu arrives avec des chiffres, faut que tu arrives avec une base solide pour que les électeurs disent « OK, ouais, il y a peut-être quelque chose de crédible dans ça, il y a peut-être quelque chose qui est faisable. » Puis à base, c'est faisable, là, je veux dire, des tunnels, puis des autoroutes, puis il y en a partout dans le monde, ce genre d'affaires-là. Sauf que les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est « OK, mais combien ça coûte? C'est quoi le coût de ça? C'est les délais? Tu sais, il y a tellement de questions. Tu peux pas arriver en campagne électorale puis dire, je veux faire ça, mais oh, je sais pas trop comment ça coûte, là. Ça va-tu être moins cher? Tu sais, faut que t'aies les détails quand t'arrives avec une annonce comme ça, à mon avis, là.
Plusieurs choses. Ce qui fait mal aussi à Jean-François Gosselin là-dedans, c'est, et je vais reprendre une partie de l'analyse que Karine Gagnon fait dans le journal ce matin, là. Et sur le troisième lien, entre autres, je suis j'allais dire majoritairement, tout le temps désaccord avec Karine Gagnon. Là, des fois, ça frôle la mauvaise foi et l'acharnement, malheureusement, là, même si j'aime bien Karine. Sauf que quand Karine Gagnon dit, Jean-François Gosselin reproche à Régis Labeaume d'avoir établi un projet de tramway sur le coin d'une napkin, la fameuse napkin, oui, là, oui. On a l'impression que Jean-François Gosselin a concocté un projet de troisième lien et demi sur un post-it. Ouais, arrivé avec ça, personne n'attendait ça. Mm. Là, en fin de journée, il a contacté des journalistes pour dire non, mais en fait, c'est peut-être on splitterait le lien en deux. Alors que moi, ma compréhension, c'est que les journalistes lui ont demandé à plusieurs reprises, donc vous voulez construire deux infrastructures, une pour le transport en commun, l'autre pour le transport automobile plus à l'est. Ça semblait être bien, bien ça, là. Il est arrivé avec ça, c'était même pas un point de presse là-dessus. Même si je veux être juste envers Bruno Marchand, quand il a fait le faux pas avec les taxes, puis de revenir le lendemain, puis dire finalement c'est pas des taxes, c'est une redevance, je me suis questionné sur à quel point il venait pas peut-être de s'infliger une blessure mortelle.
Ouais. Ouais.
Ben, je suis obligé de soulever la même question pour Jean-François Gosselin, qui est en quête de crédibilité, de notoriété, là, qui arrive avec ça hier. Écoute, moi, je trouvais ça loufoque. Maintenant, on peut avoir le débat sur un lien uniquement dédié au transport en commun. Mm-hmm. Ça fait quelques fois, toi, je vois que tu chemines là-dedans.
C'est ma prédiction.
Moi, là-dessus, je te dirais que si on se met à dire que la solution, c'est peut-être d'avoir un lien uniquement transport en commun, sous fluvial, un métro entre Québec et Lévis, pour moi, ce serait d'abandonner à peu près 80% de toute l'argumentation que toutes celles et ceux qui défendent le troisième lien depuis des années ont mis de l'avant. Le périphérique, oublie ça. T'as plus de notion de périphérique avec un lien de transport en commun.
Est-ce que c'est pas un vieux modèle?
L'aspect de la sécurité publique, ce qui s'est passé cet été, là, on dit, regardez-le, regardez ce que ça fait, à quel point on est enclavé, on est dépendant de ces deux liens-là. Si tu fais juste un lien de transport en commun, tout cet argumentaire-là qu'on est venu sous-tendre sur la sécurité publique, sur le ridicule d'avoir juste deux liens routiers, en fait, un lien et demi tout croche avec le pont de Québec, à l'ouest de la ville, ça tient plus. Le fait qu'on dit que le troisième lien, c'est pas juste le projet de Lévis, que c'est toutes les autres municipalités, entre autres de l'Est, je pense à Bellechasse, Chaudière-Appalaches, ils en ont rien à foutre d'un lien qui soit juste pour le transport en commun. Ça vient pas aider Beaumont, cela, là. Je trouve que c'est de perdre toute une partie de l'argumentaire qu'on utilise depuis des années.
Mais à un moment donné, une situation évolue aussi. Puis des projets aussi coûteux, à un moment donné, il faut que tu fasses certains compromis. Puis j'ai l'impression que le compromis, finalement, ça va peut-être être ça, Joe, là. Puis l'autre affaire, c'est que là, je vais sonner comme les gens d'Accès Transport Viable, un peu ce gang-là, là, je vous avertis tout de suite, là. C'est qu'étant donné que moi, je crois à ça un succès, OK? Là, tu peux me dire, Landry, mets toutes tes affaires, tu vis pas, ça arrive ça, ta. Mais il reste quand même que je crois à ça, le succès du transport en commun entre les deux rives, parce que ça va aller vite pour vrai. Là, on parle pas d'un tramway qui va aller à la même vitesse que les métrobus sur le parcours du métrobus. Là, on parle de quelque chose qui va ressembler un peu au métro Longueuil. Tu sais, quand vous prenez le métro Longueuil à Montréal, pensez à ça, là. Parquez votre char, vous embarquez. À peu près en 8 minutes plus tard, vous êtes rendu à Berry-UQAM, en plein centre-ville de Montréal, pas de char à parquer. Pensez à ça, là. Moi, je pense que ça peut retirer des véhicules de la route. Et c'est là, peut-être, qu'on va aller faire les gains qu'on souhaite, que tout le monde souhaite. C'est-à-dire qu'il y a moins de congestion. Moi, je t'annonce qu'être ça arrive ça m'intéresserait, ça, moi. Partir de la rive sud, embarquer dans un métro, tu te ramasses, ça arrive nord en 7-8 minutes, là. Je dis 7-8 minutes, je sais pas combien de temps, là. Mais ça me parlerait, ça, de vivre ça arrive sud, d'avoir cette opportunité.
Je dis pas que c'est inintéressant de profiter des impacts positifs d'un transport en commun efficace entre Lévis et Québec. Je reconnais qu'il y a une pertinence à ça. Mais quand je regarde la problématique de transport qui nous mène à dire qu'on a besoin d'un autre lien autoroutier, éloigné des deux qui sont collés sur l'autre dans l'ouest de la ville, le transport en commun uniquement vient pas répondre en tout à cette problématique-là. Tu sais, j'ai de la misère, moi, quand, mettons, à toute heure du jour, on est pogné sur la 20 à hauteur de président Kennedy pour s'en aller vers les ponts ou pour s'en revenir, etc., j'ai de la misère à voir que du jour au lendemain, le fameux gain net qui découlerait de la construction d'un lien uniquement de transport en commun, en quoi ça viendrait tout changer, le péril qu'on vit dès qu'il y a le moindre incident aux abords des ponts. Je le vois pas comment ça viendrait corriger tout le travers de la situation.
Mais il va falloir quand même trouver des solutions pour la sortie d'autoroute du côté de Québec. Ça, je te le dis, là. Puis je regardais l'article de ce matin dans Le Soleil, là, sur l'habitat des poissons, des moules et des plantes à statut précaire. Là, on parle du pont de l'île d'Orléans, là. Des espèces qui sont menacées, les moules d'eau douce qui sont menacées en dessous du pont de l'île d'Orléans, là. Imaginez-vous quand ça va être le troisième lien. Je vous le dis, là. Je veux pas être trop pessimiste, mais c'est pas la première fois que je vous parle de ça. J'ai l'impression que ça va finir avec des compromis. Et si les gens veulent vraiment le projet qui est sur la table présentement, il faut qu'ils le disent très, très clairement. Parce que j'ai pas nécessairement un si bon feeling que ça pour la réalisation de ce projet-là. On y reviendra. Passons à un autre sujet parce qu'elle est déjà en ligne. Ça concerne les CPE, ça concerne les éducatrices en CPE. Le gouvernement qui semble avoir pris une décision, c'est-à-dire que même s'il y a des négociations actuellement avec les syndicats, le gouvernement du Québec a décidé de bonifier dès maintenant le salaire des éducatrices en CPE, même si les négociations se poursuivent. On parle d'une augmentation de 17 % de leur salaire. Donc, des salaires qui vont se chiffrer, là, on va parler de premier échelon, 21,38 $ de l'heure et 28,31 $ au dernier échelon. Pour en parler, on va aller retrouver la présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel. Mme Lebel, bonjour.
Bonjour.
Bon, ben expliquez-nous ça. Qu'est-ce qui a motivé votre décision d'aller de l'avant malgré les négos qui ne sont pas complétés?
Bon, deux raisons. Hein. Je pense qu'il y a urgence d'agir, c'est très clair. On voit que mon collègue essaie de sécuriser le réseau, veut faire des annonces, va faire des annonces de nouvelles places, va faire des annonces dans les prochaines semaines sur son plan là, pour mettre en valeur le réseau et le sécuriser pour donner accès à toutes les familles du Québec, là, en tout cas le plus possible, c'est l'objectif. Et au cœur de tout ça, ben, c'est la main-d'œuvre et la capacité de pouvoir retenir et recruter nos éducatrices en CPE. Donc, je pense que c'était fort important d'agir le plus rapidement possible. Bon, il y a 60 % des éducatrices au Québec qui sont non syndiquées, donc qui sont présentement à la remorque des négociations, alors qu'elles ont, je pense, le droit d'avoir accès le plus rapidement possible à ce qu'on a avancé comme gouvernement. On a mis sur la table dès le début juillet une offre salariale de 17 % là, qui se décline de plusieurs façons, mais disons que c'est un chiffre global de 17 % là, pour faire une figure. Vous avez raison. Au top de l'échelle, là, ça va donner aux éducatrices qualifiées 28 $. Puis si elles sont dans une semaine de travail normale de 5 jours semaine à 40 heures, ça leur donne plus de 29 $ de l'heure, ce qui donne à peu près 61 000 $ par année. Là. Ça, c'est l'offre gouvernementale de juillet. Donc, on a décidé d'aller de l'avant. Il y a le fait aussi que ça va pas à la vitesse où je l'espérais aux tables de négociation et le gouvernement reculera pas sur cette offre de 17 % là. Je veux dire, c'est le plancher qu'on a mis pour démontrer notre bonne foi, pour commencer à partir des négociations. Et là, je parle de juillet, là, il y a plusieurs mois de ça, plusieurs semaines. Donc, on n'ira pas en bas de ce 17 % là. Mais moi, c'est très important, puis c'est le message que j'ai donné aux centrales syndicales ce matin par le biais de mes équipes. On continue à négocier, là. On n'est pas passé par un décret. C'est pas une loi spéciale où on dit, bon, c'est 17 %, on arrête de jaser, puis on finit ça là. Pas du tout. Ce qu'on dit, c'est qu'on a avancé ça comme chiffre. On n'ira jamais plus bas que ça. On va même déposer dans les prochains jours où on a déjà commencé à donner des indicateurs de façon verbale à différents chefs syndicaux, mais on va le faire de façon écrit dans les prochains jours où on va même bonifier notre première offre. Donc, on va aller à un peu plus que 17 %. Mais on s'est dit, là, tant pour les éducatrices non syndiquées du réseau que pour celles qui attendent présentement, je pense que le premier geste de bonne foi pour leur démontrer qu'on est sérieux dans notre volonté de les valoriser, c'est d'à tout le moins verser notre première offre immédiatement.
Madame Lebel, depuis que vous êtes en place au Conseil du Trésor, tous les intervenants avec qui vous faites affaire soulignent votre ouverture, votre capacité à avoir un bon dialogue, puis vous essayez d'avoir des résultats probants. Donc, je vous donne le bénéfice du doute. Par contre, si je me mets à la place des parents qui ont été touchés encore par les différentes grèves au cours des derniers jours, je me questionne à savoir à quoi bon donner tout de suite un 17 % si on n'a même pas de garantie, à moins que vous nous disiez le contraire, qu'il n'y aura pas d'autres grèves, là, étant donné que la négociation n'est pas encore terminée.
Ben, je peux pas demander ce genre de garantie-là au syndicat. Il m'aurait envoyé promener en toute transparence, avec raison, parce que je négocierai pas les moyens de pression. J'ose espérer que l'effort du gouvernement, parce que ce qu'on demande, ce qu'on dénonce sur les lignes de pitchage, c'est le fait que, bon, le gouvernement est pas de bonne foi, etc., etc. Donc, moi, je voulais faire un chef de bonne foi. Et d'ailleurs, je l'ai dit, aux tables de négociation, ça va pas assez vite. Moi, je suis disponible. Je suis très factuelle, hein. J'essaie de démontrer de l'ouverture et c'est un peu une façon de démontrer notre ouverture et d'en faire la démonstration. Maintenant, par contre, pour ça, il faut s'asseoir aux tables de négociation puis il faut venir discuter avec moi. Je l'ai dit dans les derniers jours, il y a quelques commentaires qui ont été faits par différentes représentantes ou chefs syndicaux avec lesquels je suis en désaccord, je suis disponible. Maintenant, on peut peut-être dire que c'est pas assez, que c'est pas comme ça, qu'on devrait faire de façon différente les offres, les répartir autrement. Ça se négocie aux tables, venez vous asseoir. Mais oui, effectivement, je souhaite qu'il y ait un effet, mais non, je n'ai pas, j'ai pas poussé l'odieux à négocier parce que les syndicats m'auraient dit, écoutez, là, bonifiez vos offres, on négocie pas les moyens de pression, on a le droit de faire des moyens de pression. Bon, ils ont raison dans ce sens-là, mais c'est sûr que moi, j'ose espérer que ça fera en sorte de démontrer notre bonne foi. À l'instant de la conversation que j'ai eue avec les syndicats la semaine passée, qui représentent les ingénieurs de l'État, qui menaçaient de faire une grève générale illimitée cette semaine, si je me trompe pas, la date était cette semaine, où je leur ai pas, j'ai pas négocié les moyens de pression, mais je leur ai avancé certains objectifs. J'ai donné des mandats clairs aux tables de négociation. Ils ont considéré que ma bonne foi et l'ouverture du gouvernement étaient suffisamment démontrées à ce stade-ci pour repousser leurs moyens de pression. Est-ce que je l'ai demandé? Non. Est-ce que je l'espérais? Oui. Est-ce que je le demande dans le cas actuel? La réponse est non. Est-ce que je l'espère? Très certainement. Je veux dire, on est là pour négocier. J'ai répondu favorablement à leurs enjeux en disant « Je suis à la même place que vous sur les objectifs. » Maintenant, le diable étant dans les détails, il faut les régler. Il y a les enjeux salariales, il y a les échelles entre les différences qu'on doit faire entre les éducatrices qualifiées et non qualifiées, parce qu'on m'a demandé aussi du côté syndical de valoriser le TEC. Donc, il faut le faire. Donc, il y a toute la mécanique des échelles qu'il faut aller travailler. Venez vous asseoir, là. Puis on va faire le travail.
Pour les parents qui nous écoutent, Madame la ministre, là, puis on comprend que c'est bon pour la rétention, c'est bon pour le recrutement, donc on se dit ça va être bon pour le nombre de places aussi. Là. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui nous écoutent actuellement, qui n'ont pas de place en garderie, puis seulement, oui. OK, jusqu'à quel point ça va déboucher sur des nouvelles places en garderie, ça? C'est quoi de chiffrer ça, là?
Bien, je le chiffrerai pas à dessein parce que mon collègue doit faire une annonce prochainement. Il a annoncé beaucoup, beaucoup de places dans le réseau, des plusieurs milliers de places dans le réseau dernièrement. Cet été, il a fait une tournée pour le faire. Il en a annoncé dans mon comté également. Il a l'intention de faire un plan beaucoup plus global. Puis son objectif est d'assurer une place à tous. Hein. Puis il y a le réseau familial, il y a les CPE, on s'entend, il y a tout. Bon, on a un réseau de garde qui est varié, avec une offre variée qui peut convenir à tout le monde. Et il va faire une annonce dans quelques semaines. Mais au cœur de tout ça, la réponse qu'on se faisait donner à chaque fois, c'est ben, c'est bien beau d'offrir des places et les ouvrir. Comment vous allez faire pour avoir des éducatrices? Parce qu'on peut pas avoir des places théoriques. Je vais vous donner un exemple dans mon comté, en Mauricie. Moi, j'ai dans ma poche, entre guillemets, 100 places en milieu de garde familiale que le ministère a accordé à ma région, mais j'avais personne qui ouvrait des milieux familiaux pour les combler. Donc, c'est comme l'œuf et la poule, si on veut. Alors, une des clés de retenir, en prime abord, est d'attirer des nouvelles éducatrices, parce que là, on parle du réseau des éducatrices qualifiées et des CPE là, et des réseaux de garde subventionnés. Donc, il faut toujours bien répondre à cet enjeu-là. Ouais. Mais je vais quand même vous dire que ça s'en vient très rapidement. Je sais qu'il a un excellent plan, mais je lui volerai pas le scoop, si vous me permettez.
Non,
mais
c'est correct. C'est correct. Avant de vous laisser, Mme Lebel, dans le dossier des infirmières, tant que vous êtes au bout du fil, là, en terminant, là...
Les temps qu'à y être.
Hein, ben, tant qu'à y être, exactement. On est dans les temps qu'à y être. Il y a un investissement d'1 milliard qui est annoncé il y a deux semaines. On parlait d'à peu près 1 000 infirmières qui sont revenues. Là, on en est où dans les négos? Si Mme Bédard est partie, là, c'est assez bordélique. Ça devient difficile à suivre pour tout le monde, là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Êtes-vous impliqué là-dedans, vous, ces décisions-là? On en est où dans tout ça, là, présentement, là?
Bon, je vais faire le topo au meilleur de ma connaissance, là. Si on parle de négociation de convention collective, c'est terminé. La convention collective, elle est signée. Et dans cette convention collective-là, il y a plein d'ajustements d'horaires autogérés, de primes de soir, de nuit, tout ça pour augmenter la disponibilité des infirmières, puis aussi améliorer leurs conditions de travail qui étaient, à part les salaires, là, mais je vous dirais que pour les infirmières, l'enjeu primordial était la conciliation travail-famille, les horaires de travail, puis d'arrêter de se faire imposer du temps supplémentaire obligatoire. Ça, c'est réglé. On a eu l'entente de principe qui a été votée cet été, puis on a signé la semaine passée de façon officielle. La passerelle qu'on a annoncée avec mon collègue sont les primes qui peuvent valoir à la hauteur d'un milliard si on a du succès, parce que la bonne nouvelle, c'est que si ça nous coûte 1 milliard, c'est qu'on va avoir réussi à ramener les infirmières. Donc, je vais le voir de cette façon-là. Ça va bien aussi. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 1 000 infirmières qui ont accepté de revenir ou de rehausser à temps plein. Ça, c'est des heures de plus dans le réseau. Puis, il y a 1 900 infirmières, je pense, qui sont en négociation présentement pour revenir. Et là, on est en train de vouloir aménager les horaires. Et c'est un peu ce qui a motivé la décision de mon collègue hier par rapport à la vaccination obligatoire, c'est-à-dire comment on peut refaire l'amélioration des horaires si d'un coup sec, on risque de perdre beaucoup de gens dans le réseau. Mais ça va pas très vite, Mais comme disait ma grand-mère, lentement mais sûrement.
Bon, ben c'est ça, on va suivre ça. Merci beaucoup, voilà. Madame la ministre. Merci beaucoup.
C'est un grand plaisir, merci.
Au revoir. Maître Sonia, j'aimerais remettre. Madame Sonia, ben quoi qu'elle doit être encore maître.
Oui.
Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, on est tellement habitué de la voir en tant qu'avocate. Il y a un auditeur du nom de Anne Lacroix qui nous texte et je cite... maudit que je l'aime, elle. Il n'y a pas de niaisage. Effectivement, d'après moi, il n'y a pas beaucoup de, niaisage.
Elle est très, très bonne. Je peux te confirmer qu'au gouvernement, c'est une des plus populaires, là, à l'intérieur du gouvernement. Hein. J'ai même envie de dire à l'Assemblée nationale, là, tu sais, peu importe le parti politique.
Pas surpris.
Parce que what you see is what you get, là. Tu as l'air juste avec Mme Lebel.
Et voilà. La police du fun, Alexandre Tétrault, qui est un petit peu fâché. Donc, on s'arrête quelques instants, on vient.